CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous présente une cassette OB.
Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junier, Le monde de Claire. Mise en scène, production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur. Les scénarios qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Des fois aussi, je prenais dans un de tes cendriers une de tes cigarettes à moitié consumée. Je l'allumais et la mettais dans la bouche tout en mimant tes gestes. Me trouvais mieux, plus heureux, mais tu ne voulais pas que ce soit dit que c'était grâce à toi, à mon amour pour toi. Tu ne voulais pas savoir que je t'aimais, mais par contre, tu me racontais toujours tes aventures. jour, je trouvais dans la salle de bain un rasoir électrique d'homme et une robe de chambre. J'en étais malade, de surprise et de jalousie. C'est que comme si je ne savais pas que tu avais des amants, comme si je l'apprenais maintenant, comme si j'étais un mari cocu. Malgré que nous n'avions aucun rapport et ne vivions ensemble, mais j'avais l'impression que tu avais introduit chez nous un inconnu pour me faire cocu. J'étais fou de rage et un désir intense me forçait à rechercher des indices de votre intimité, d'être en quelque sorte un voyeur de vos ébats. J'allais dans la chambre, la tête en feu, avec un désir étrange d'excitation, du besoin de voir quelque chose, de votre intimité était plus forte que ma jalousie. J'aurais aimé voir ce que vous faisiez malgré le mal que j'en aurais eu. Je regardais dans la chambre, elle était pareille aux autres jours, je la sentais, rien de spécial. Je fourrais mon nez dans le lit, essayais de voir, d'après les prix des rats, la forme des corps. Mais ils étaient tellement froissés que l'on ne pouvait rien distinguer. Tout à coup, je vis à terre, près du lit, une serviette éponge. Je la pris, tout en me persuadant que c'était avec elle qu'il s'était essuyé. Regardais dans toutes les coutures, sur toutes les coutures, comme un fou. Rien. Puis furieux, j'allais dans le salon, m'asseoir dans un fauteuil, à broyer du noir, en me disant « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi ?» Puis, je m'apaisais et eus honte. Je me dis que je n'aurais pas dû faire ça, que ce n'est pas bien, qu'elle te faisait confiance, que tu étais libre de faire ce que tu voulais et d'aimer qui tu voulais. Oui, elle était libre de faire ce qu'elle voulait et d'aimer qui elle voulait. Elle m'avait fait confiance. Or, pourquoi ? En face de moi, je trouvais une glace et je vis mon visage. Je pensais, c'est normal, elle ne pourra pas t'aimer. Je suis vieux et moche. Il faut laisser les jeunes entre eux. Qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux? Mais je l'aime. Je me levai tristement. Rentrer chez moi. Et me couchais. Mais le lendemain, malgré mes bonnes intentions et ma honte, je recommençais à chercher des indices de sa vie intime. De ta vie intime. Le rasoir et la robe de chambre avaient disparu. Je me sentais mieux et je recommençais à faire tes courses et ton ménage avec amour. Quelquefois, je te portais des fleurs ou un disque. Je le faisais toujours lorsque tu étais absente. Ma jalousie semblait en dehors de mon amour. Il me semblait que j'étais jaloux d'une autre personne. Je te voyais toujours pur, et mon voyeurisme était pour ton corps et non ton cœur. Comme tous les mardis, tu m'invitais chez soi, vers les 21h. Surpris, je trouvais un mot sur ta porte. Je ne peux pas vous recevoir ce soir. Revenez demain. Grosse bise, Claire. J'étais furieux et jaloux. Tu me prenais pour qui? J'imaginais la chose. Tu avais dû rencontrer au restaurant un petit jeune et hop, on se donne rendez-vous pour le soir, tant pis pour le vieux. Je frappais à la porte. Personne. Alors, j'ouvris la porte de l'appartement. Personne. J'allais dans la chambre. Des vêtements en désordre sur le lit. C'était bien ça. Tu t'étais changé en vitesse pour aller rejoindre l'autre. J'étais furieux. Et ne me rendais pas compte de la situation. Je suis entré. Et si tu avais été chez toi, avec l'autre, qu'aurais-je fait, dit, et maintenant? Je restais. Je voulais t'attendre. Je ne me rendais pas compte que si tu étais venu avec une autre personne, et puis, je n'avais pas été là, vu que tu m'avais dit de ne pas venir. Les heures passaient, longues, interminables. Enfin, tu rentras. Oui, tu rentras. Surprise de me voir, et moi furieux, tu t'en aperçus. Mais que faites-vous là? Vous avez mis un mot sur la porte. Je te dis que je ne l'avais pas vu. Tu allas à la porte. Le mot n'y était pas. Oui. Tu pensas qu'on l'avait enlevé. Tu étais surprise de ma fureur. Tu me fais asseoir. Je te dis sèchement, « Alors, vous aviez un rendez-vous avec un jeune ?» Tu me regardais avec surprise et me dis, avec un sourire crispé, « Mais vous êtes jaloux, ma parole. Je suis sûr que si vous me voyez avec quelqu'un ou que quelqu'un m'embrasse, vous ne le supporteriez pas. » Toujours furieux, je lui dis, « Il n'est pas venu ? Il vous a fais un lapin? Tu me dis sans colère. Allez-vous-en. Vous êtes insupportable ce soir. Revenez demain. Le lendemain soir, tu me reçus. J'avais passé la journée à broyer du noir. J'étais de mauvaise humeur. Tu me demandais si j'allais mieux depuis hier. Je te dis que non. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. J'en ai assez de cette vie. J'ai envie, c'est d'hurler, de crier ma peine. Alors il se passa la chose la plus extraordinaire que je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi tu faisais cela. Écoutez, je vais vous faire un cadeau. Surtout, ne me regardez pas comme cela. C'est déjà assez difficile. Je vais éteindre la lumière et vous pourrez faire tout ce que vous voudrez avec moi. Vous êtes d'accord ? J'étais surpris et complètement ahuri d'entendre cela. J'avais peur d'une chose, c'est qu'après cela, tu ne veuilles plus me revoir, je te dis. J'aimerais mieux être toujours auprès de vous, plutôt que de vous connaître entièrement et de vous perdre après. Non, je vous assure qu'après, ce sera comme avant. On éteint la lumière et lorsqu'on la rouvrira, nous ne parlerons plus de ce qui s'est passé. Voilà. Vous êtes d'accord ? Bon. Je ne sais pas comment je vais réagir et ce que vous allez découvrir vous plaira. Tu te levais. Mis un disque. Est assis à côté de moi. S'assied à côté de moi. Et éteignit la lumière. Finissait ta cigarette. Je voyais la petite lumière de la cigarette descendre dans le cendrier. J'étais ému, trop ému pour apprécier tout cela. J'avais aussi peur de te perdre. J'entendais que tu te déshabillais. Je ne bougeais toujours pas. Alors, j'allongeais mes mains tremblantes. Elles touchaient le ventre. Et là, une sorte de fougue me prit. Je sortis de mon fauteuil et me mettais à genoux devant toi. Je baisais ton visage, ton corps, ta poitrine, ton corps, mes mains caressaient ton corps. Je quittais ton slip tout doucement. Je sentais les poils du bas ventre. J'en pouvais plus. Enfin, de l'autre côté, je lui dis, si tu veux. Malgré la pénombre, je voyais la blancheur de son corps se lever et marcher. Je te suivais. Le soir, le noir. Le lit dans le noir. Je ne voyais qu'une chose, les chiffres rouges de ton radio réveil. La musique s'était-tu depuis un moment lorsque tu jouis. se levait, nous sommes assis sur le lit, me donnait un baiser et me dit d'aller dans l'autre pièce. Je sortais de la chambre, aller dans le séjour, éclairait. Et attendait. J'étais heureux, mais inquiet. Tu es venu me retrouver en souriant. Eh bien voilà. Tu t'assis à côté de moi. Me dis, alors, je souris. C'était bien ? Pas déçu, je faisais non de la tête. Tu me servis un verre. Tiens, à cette première fois, je lui dis, j'aimerais mourir. Je te dis, j'aimerais mourir maintenant, après cela. Non. La soirée se termina ainsi. Et je rentrais chez moi, la tête en feu. Je ne comprenais rien, heureux et inquiet. J'avais peur pour notre prochaine soirée. Ému, tu me recevas comme si c'était rien passé. J'étais très ému, puis je me suis détendu. Tout d'un coup, tu me dis, si tu veux, on va de l'autre côté. Alors, si c'est oui, on y va maintenant, parce qu'après, il sera trop tard. Cette brusquerie me surprit. Mais elle ne me gênait pas, car je connaissais ton caractère impulsif. J'ai oublié, c'est de dire, c'est que tu ne voulais pas que je me déshabillasse en entier. Désormais, nos fins de soirée se terminaient ainsi. Malheureusement, cela m'agaçait durant toute la soirée. Je me demandais si oui ou non, nous allions aller de l'autre côté. Tu me parlais toujours de tes aventures amoureuses, mais cela me faisait moins mal, puisque je t'avais. Moi aussi, j'étais heureux. Je t'aimais de plus en plus, et j'étais fier de t'avoir une fois par semaine. Moi, le vieux, le moche. La vaisselle et les courses. Aussi, je te faisais de petits cadeaux. Je passais de longues heures à rêver de toi. Je m'allongeais sur ton lit, toujours défait, et me sentais bien. Bien sûr, quelquefois, je trouvais des traces d'autres personnes, mais cela me faisait moins de mal. Je me disais, les autres passent et moi je reste. Et puis, j'ai la clé. Je me disais aussi que tu avais pour le moment, sinon de l'amour, mais du moins de l'amitié, une très grande tendresse. Mais qui sait si un jour faisait jouir d'une façon si intense. Toujours pas que je me déshabillais en entier, faire sentir mon corps contre le tien que j'écoutais. Je ne voulais pas non plus la lumière. Les semaines passaient. Et un soir, durant toute la soirée, tu ne parlais à me parlais à peine. L'heure de mon départ arrivait et rien. Tu me dis, j'ai pas envie ce soir. C'est pour faire un cadeau si l'on n'en a pas envie. Je partis tristement. Puis, nous avons eu des relations intimes de moins en moins souvent. Avec tristesse que tu te donnais moins. Je devenais plus nerveux et anxieux. J'avais pris l'habitude d'aller à chaque fois de l'autre côté, comme tu disais. Et là, d'un seul coup, c'était l'inverse, l'incertitude. Pourquoi ce changement? Je n'osais pas te poser de questions. Un soir, tu étais plus triste que d'habitude. Tu me dis, j'ai rencontré quelqu'un. Je reste des heures devant le téléphone à attendre s'il doit venir ou non. Cela m'énerve. Cette nouvelle m'attrista et m'inquiétait beaucoup. Car que je sentais que c'était plus sérieux que de coutume. Désormais, tu passais tes soirées à te lamenter de ne pas avoir vu ton Laurent. Tu pleurais. Il fallait que je te console. Je me consolais moi-même en me disant que vivement cette aventure se termine, que sûrement elle n'allait pas durer. Et que moi, j'allais rester. Mais non plus de l'autre côté. Les semaines passaient, tristes et angoissantes. Tous les jours, j'allais pleurer chez toi, mon bonheur disparu. Un jour, je trouvais sur la table de la cuisine, une lettre. Où tu me disais que Laurent allait vivre avec toi, qu'il fallait être très gentil avec lui, et que nous allons tous devenir bons amis. Cette lettre me faisait un choc terrible. J'aurais jamais cru que tu puisses vivre avec une personne. Adieu pour moi, toutes ces choses qui m'étaient particulières, comme celle de venir chez toi lorsque tu n'y étais pas. Malheureusement, il ne venait pas. Tu pleurais chaque jour de ces deux convenus. Moi, je souffrais de te voir pleurer dans mes bras pour un autre. Je profitais d'aller le plus souvent possible chez toi, car je sentais la fin de ce privilège. Tous les deux jours, je t'apportais en cachette des roses. Et puis tu me dis qu'il allait venir, que c'était notre dernière soirée avant sa venue. Pour me consoler, tu me faisais un dernier cadeau. Disant au revoir, tu me dis que tout irait bien, que l'on continuerait à se voir comme avant. Pour moi, tout était fini. En me disant au revoir, tu me dis que tout irait bien, que l'on continuerait à se voir comme avant. Pour moi, tout était fini. J'ai pris une décision. Je vais m'en aller, Claire. Je vais quitter Lyon et partir. Je ne peux pas supporter de vivre ici. Cela me rappelle trop de choses. Je t'aime tellement, si tu savais. Je te remercie pour tout le bonheur que tu m'as donné. Tu m'avais rendu mes 15 ans, car je t'ai aimé comme un adolescent. Tu es la première personne que j'ai le plus aimé au monde. Tu es mon dernier amour. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans toi. Vais-je pouvoir continuer à vivre? Tu as été bonne, douce, compréhensible avec moi. Tu m'as fait des cadeaux inestimables. Donner ta jeunesse, ta confiance, être ton confident, la clé. Tu as le sourire le plus merveilleux du monde. Tu es bonne et douce. Je t'aime. Je t'aime à en mourir. Oh, je t'en supplie, ne m'oublie pas. Pense de temps en temps à ton vieux monsieur. Sois heureux. Je t'aime. Jean-Yves. Le téléphone sonne. Je décroche. Allô? Jean-Yves? Je ne veux pas que vous partiez. Je vous aime. Surtout, ne dites rien. Attendez ma lettre. Le lendemain, je trouve une lettre de Claire. Cher Jean-Yves, tu as dû être surpris de mon appel téléphonique. Lorsque j'ai lu ta lettre, ceci m'a fait un choc étrange. J'ai ressenti un vide en moi, sans savoir pourquoi. Pendant des heures, j'errais dans mon appartement. Tout ce que je voyais, les choses, les objets, me rappelaient ton existence. Chez moi était aussi chez toi. Alors, me revenaient toutes tes gentillesses, tes cadeaux, tes aides. J'errais toujours dans ces pièces qui n'étaient plus les miennes, mais les nôtres. Je revoyais nos soirées, nos discussions. Une immense tristesse me prit. Non, ce n'était pas possible que tu partes et que l'on ne se voie plus. J'ai compris que je t'aimais et ne pouvais pas vivre sans toi. Oui, je renonce à ma liberté. Mon amour pour toi est plus fort que tout. Je t'aime. Viens. J'ai écrit cette nouvelle d'une seule traite. La première fois, j'avais perdu la dernière page de l'histoire. Je l'ai écrite d'un seul jet et avant de la réenregistrer, j'ai retrouvé la page que j'avais écrite. Celle que j'ai réécrite ressemblait mot pour mot à ce que j'avais déjà écrit. Cette histoire me touche beaucoup. Elle est une blessure au cœur. Une blessure qui restera toujours. La personne est morte peu de temps après avoir écrit cette lettre d'un accident de voiture. Voilà. Et oui, l'histoire est finie, c'est une histoire. Attendez, il faut que j'enlève le retour. Ah, parce qu'autrement, ça fait un son minable. Oui, je voulais vous dire que cette histoire, cette petite nouvelle qui a 25 pages, même, disons 26 pages, a été commencée. J'ai commencé le VHS le 31 décembre 2005 et j'ai fini mes mini-disques le même jour, 31 décembre 2005. Il est exactement 17h. Voilà, c'est fini. Cette histoire, j'y suis très attaché parce que je trouve qu'elle est pas mal écrite, mais elle a été très difficile comment dire, à mettre en onde, parce que en fait c'est une longue lettre. Alors ça n'a pas, on peut difficilement couper cette longue lettre pour mettre des bruits et des sons, des bruits et de la musique, je veux dire. C'est pour ça que c'était assez compliqué à faire. Bon, j'y suis arrivé en même temps que j'enregistrais. Pour montrer à la société des auteurs comment je travaille, j'étais en train d'enregistrer en DV comment je travaillais. Alors, ce qui fait que j'avais un œil sur la caméra pour voir quand est-ce que la cassette DV allait finir, etc. J'ai rempli 4 cassettes DV de 90 minutes. Pour faire mon émission. Comme vous voyez, c'est très long à faire, ça donne beaucoup de temps. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je m'en vais enregistrer en CD ce que je viens de faire, et en plus je m'en vais, après avoir enregistré en CD ce que je viens de faire, je m'en vais pour la société des auteurs, je vais mettre en DVD ce que j'ai enregistré en images. Puis j'enverrai à la société des auteurs, parce que la société des auteurs me crée quelques complications. Elle veut vraiment savoir si c'est de la création, ce que je fais. Alors je lui prouve que c'est tout de même de la création. C'est peut-être pas de la création faite comme ils le font eux à Radio France, mais c'est tout de même de la création. Maintenant, je m'en vais continuer à faire d'autres histoires, à enregistrer d'autres histoires. J'ai Qu'est-ce que fait courir Jean-Denis. Ensuite, j'ai La Lumière. Après La Lumière, je me souviens plus. Qu'est-ce que je fais courir Jean-Denis. La Lumière. Et puis l'autre, je ne me souviens plus, je me souviens plus du titre, c'est l'histoire d'une personne qui aime une image, qui est tombée amoureuse d'une image. Et puis j'ai une autre histoire que j'ai pas encore enregistrée, que j'ai pas fini d'écrire, j'ai simplement fait le résumé, qui sera pour certainement moitié de l'année prochaine, qui s'appellera Douceur amère. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses à faire encore, beaucoup de travail à préparer, beaucoup d'émissions à faire. C'est long, ça prend beaucoup de temps, et puis ça commence à être fatigant parce que bon, je prends de l'âge et c'est pas facile à faire. Mais si je ne le fais pas, je crois que ça me rend encore plus malade que si je j'arrêtais de le faire. Alors il vaut mieux que je continue à faire mes histoires comme ça. Je ne sais pas quand je vais mourir combien de milliers d'histoires j'aurai écrit, mais je crois que ça fait tout de même un sacré paquet, et pas mal d'heures aussi, de milliers et milliers d'heures d'émissions enregistrées. Ça fera des milliers et des milliers d'heures d'émissions enregistrées. Je ne sais pas ce que vous en ferez, peut-être est-ce que ça ira tout à la poubelle ou ce sera diffusé. Enfin, on verra bien ça plus tard. Voilà ce que j'avais à vous dire. Encore une chose pour l'année 2005, puisque 2005 se termine, ben comme tout le monde, c'est une année très triste, qui a eu beaucoup d'événements négatifs, des attentats, des intempéries, de gros intempéries. Il y a eu aussi des révoltes dont on ne comprend même pas le pourquoi il y a eu ces révoltes, ce qui s'est réellement passé, surtout en France. Et la France, ça va très très mal, on ne sait pas du tout ce que nous allons devenir. La France est ruinée, complètement ruinée, il n'y a plus d'argent nulle part, et on continue à faire rentrer des gens qui ont besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens-là, de ces demandeurs d'asile, comme on dit? Il n'y a pas de logement pour eux, il n'y a pas de travail non plus, les aides sociales sont complètement à sec, qu'est-ce qu'il faut faire? On demande aux Français, c'est de faire des sacrifices pour la santé, de faire des sacrifices pour sa retraite, de faire des sacrifices pour les augmentations de salaire, aussi de faire aux chômeurs de faire des sacrifices, c'est-à-dire d'être moins payés en chômage. Et en plus de ça, il faut aider ceux qui arrivent par milliers en France. C'est quasiment impossible. On peut pas résoudre tout ça. Il faut seulement trouver une solution efficace et énergique. Pour ce qui est des logements sociaux, les logements sociaux ont détruit les logements sociaux parce qu'ils ont été complètement saccagés, abîmés. Pas à cause de ceux qui, pas à cause des HLM, mais à cause de ceux qui habitent dans ces logements-là et qui ont abîmé, saccagé volontairement les choses, parce que certains logements ont même été réhabilités, comme par exemple la Duchère. On a même mis du marbre dans les allées, on a fait du beau travail, et quelques temps après, tout a été démoli, cassé. Et certaines réhabilitations, les ouvriers en étaient obligés, c'est de les protéger avec des gardes et des chiens, parce qu'on leur jetait des pierres. Et à chaque fois que les logements étaient réhabilités, on les cassait volontairement, on cassait les WC, on cassait tout. Ça aussi, c'est pas normal. C'est avec l'argent du contribuable que l'on fait ça. Lorsque l'on dit que, bien entendu, on critique maintenant comment sont les HLM, mais c'est pas les sociétés d'HLM qui les ont fait, qui les ont abîmés comme ça. Les sociétés d'HLM, ils ont donné aux locataires en bon état. Moi, j'ai visité des logements à la Duchère, j'ai visité des logements aux Minguettes qui étaient en très bon état. Ce sont les gens qui ont tout massacré, qui ont tout abîmé, malheureusement. Et c'est bien triste, ça. Alors maintenant, on démolit les tours, et on ne sait pas où on va mettre les gens. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et avant de reloger les gens, il faut, c'est les éduquer pour empêcher qu'ils refassent les mêmes bêtises ailleurs. À quoi cela sert-il de déplacer des personnes qui font des bêtises dans un autre endroit, puisqu'ils se comporteront de la même façon, et ils emmènent avec eux ce qu'ils font. Ils emmènent avec eux leur façon de se comporter. Il faut absolument éduquer la jeunesse. La jeunesse doit être vraiment éduquée. Un enfant est un enfant, il faut qu'il comprenne la différence qu'il y a entre un enfant, entre lui et un adulte. Il faut qu'il comprenne qu'il doit apprendre certaines choses et ne pas, qu'il est obligatoire d'apprendre certaines choses et ce n'est pas à lui à décider, à savoir ce qu'il veut apprendre. C'est aux adultes qui doivent lui dire qu'il faut qu'il apprenne en premier ce qu'il doit apprendre. On ne doit pas amuser les enfants, faire en sorte à ce qu'ils puissent se distraire, mais on doit les éduquer, leur apprendre à être propre, à savoir bien se comporter dans la ville, au milieu des gens. Il ne faut pas nuire, ni faut pas se nuire à soi, ni nuire aux autres. Apprendre aussi à lire, écrire le français. Ce n'est pas normal. On veut apprendre aux enfants les langues étrangères alors qu'ils sont à l'école primaire et même quelquefois en maternelle, alors que ces enfants-là ne sont même pas capables d'apprendre de connaître le français. Il faut absolument que les enfants, pour que ce soit obligatoire, que les enfants, lorsqu'ils vont au secondaire, en seconde, en collège et lycée, puissent savoir correctement lire, écrire les bases des mathématiques, les bases de l'histoire de France et tout. Enfin, toutes les bases des matières. Un jeune qui va en école secondaire sans savoir lire et écrire, ce n'est pas bien. Ça ne sert à rien qu'on envoie les jeunes à l'école, poursuivre les jeunes sans qu'ils sachent lire ni écrire. Il faut faire redoubler les enfants. Absolument. Il ne s'agit pas non plus, lorsqu'on a dans une classe des enfants qui sont dissipés et qui ne savent rien faire, pour que ces enfants-là dissipés puissent suivre la classe, il ne faut pas que l'on mette à ras des pâquerettes l'enseignement de cette classe-là pour que les dissipés puissent suivre la classe, alors que les enfants normaux qui pourraient suivre une scolarité normale ne peuvent pas le faire parce qu'on les bloque, on leur bloque leurs élans, on les met à ras des pâquerettes comme les autres. Ça n'est pas bien. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le monde de Claire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.